Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mardi 12 mars 2024. Le Sénégal se dit prêt pour le vote le 24 mars prochain. Pour la première fois, le président sortant n'est pas dans la course.
On nous impose une campagne exceptionnelle et spéciale, mais on s'adaptera.
Reportage sur le début de la campagne électorale dans la partie magazine. L'Angola évoque une possible rencontre entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais, Félix Tshisekedi, en vue d'apaiser les tensions de la crise dans l'est de la RDC. Polémique en Afrique du Sud sur l'éventualité d'une observation des élections du 29 mai prochain par les États-Unis. Crise en Haïti, les États-Unis vont fournir 133 millions de dollars supplémentaires alors que le Premier ministre Ariel Henry a rendu hier sa démission. Ici aux États-Unis, les primaires des deux grands partis se déportent aujourd'hui en Géorgie. Étape clé pour l'ancien président Donald Trump qui entend conforter sa nomination pour le compte du Parti républicain. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Le tout premier ministre sénégalais Sidiki Kaba a assuré hier que la logistique est prête pour la présidentielle du 24 mars. Mamadou Mfa.
Sidiki Kaba a reconnu qu'il y a des inquiétudes parmi les Sénégalais et qu'il voudrait les rassurer. Le matériel électoral est bien en place, a-t-il déclaré. L'administration a acheminé sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Tout le matériel et les bulletins de vote sont déjà prêts, a-t-il ajouté. Monsieur Kaba, ministre de l'Intérieur jusqu'à la semaine dernière, s'exprimait lors de la passation de pouvoir à son successeur, Mohamed Maktar Cissé, chargé du bon déroulement du vote. Le matériel est déjà acheminé, il reste encore quelques détails à régler, mais nous n'avons pas d'inquiétude à ce niveau, a précisé le nouveau ministre de l'Intérieur. Les deux responsables ont indiqué que chacun des 19 candidats a droit à la protection d'au moins deux éléments de la brigade d'intervention polyvalente, une unité de police. Cependant, Mamadou Maktar Cissé a prévenu les acteurs que les autorités ne vont pas transiger avec les actes ou les propos violents. La date de l'élection a été fixée la semaine dernière au 24 mars, avant l'expiration du mandat de Macky Sall le 2 avril. La campagne est réduite de 3 à 2 semaines.
En Guinée-Bissau, deux ex-membres du gouvernement ont commencé à répondre lundi devant un tribunal du prélèvement de plusieurs millions de dollars dans les caisses de l'État, affaire qui avait débouché fin 2023 suite des affrontements entre forces de sécurité rivales. Souleymane Seydi, ministre de l'économie et des finances à l'époque, et le secrétaire d'État au trésor public, Antonio Montero, avaient été interpellés fin novembre. Dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, des éléments de la garde nationale avaient tenté de les libérer par la force. Des affrontements avec l'armée avaient fait 2 morts. Le président Oumaro Sissoko Embalo a présenté ces événements comme une tentative de coup d'État. Le procès ouvert hier a été ajourné à une date non précisée après plusieurs heures de débats houleux. Le président rwandais a ouvert la voie hier à une rencontre avec son homologue congolais pour discuter de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, selon le chef de la diplomatie angolaise, à l'issue d'un sommet à Luanda. Le point avec Nani Talani.
Il a été convenu que le président rwandais Paul Kagame accepterait de rencontrer le président congolais Félix Tshisekedi à une date qui sera indiquée par le médiateur. Chaque partie doit encore travailler à cette étape, a indiqué le ministre angolais Tete Antonio. Cette décision a été prise à l'issue d'une rencontre bilatérale entre M. Kagame et le président angolais João Lourenço, médiateur de l'Union africaine. Les chefs d'État se sont mis d'accord sur les mesures à prendre pour s'attaquer aux causes profondes du conflit, a affirmé de son côté la présidence rwandaise. Les présidents rwandais et congolais se sont rencontrés pour la dernière fois en Éthiopie le 16 février, en marge d'un sommet de l'Union africaine. Selon des sources diplomatiques, la rencontre était très tendue. Fin février, la présidence de la RDC a indiqué, citant également le ministre angolais, que le président Félix Tshisekedi aurait donné son accord de principe pour rencontrer son homologue du Rwanda. La présidence congolaise rappelle qu'avant de rencontrer Paul Kagame, Félix Tshisekedi exige le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, la cessation des hostilités et le cantonnement des rebelles du M23.
Le gouvernement sud-africain a exprimé hier sa stupéfaction après un courrier du premier parti d'opposition adressé aux États-Unis pour demander l'envoi d'observateurs afin de garantir l'intégrité des élections générales prévues fin mai et qui s'annoncent à risque pour l'ANC au pouvoir. Rosine Monizero.
J'ai trouvé cette lettre stupéfiante, a déclaré Naledi Pandor, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, sur la chaîne de télévision sud-africaine. La veille, en campagne près de Johannesburg, le président Cyril Ramaphosa a qualifié la lettre d'hypocrite, soulignant que des observateurs de l'Union africaine et de l'ONU sont habituellement présents dans le pays lors des scrutins. L'Alliance démocratique a adressé jeudi un courrier au secrétaire d'État américain Anthony Blinken, affirmant sa volonté de renforcer son appel à la communauté internationale pour aider à garantir l'intégrité des prochaines élections. Il est clair qu'ils ont quelque chose à cacher, vu leur réponse agressive à une demande standard dans le monde entier, a estimé Emma Louise Powell, chargée de la politique étrangère au sein de l'Alliance démocratique, à l'origine du courrier. Quelques 27,5 millions de Sud-Africains sont appelés le 29 mai à renouveler leur parlement qui va désigner le prochain président. D'après les enquêtes d'opinion, l'ANC pourrait perdre sa majorité absolue au Parlement pour la première fois depuis 1994.
Somalie, le gouvernement américain a imposé lundi des sanctions à ce qu'il a qualifié des réseaux internationaux de collecte de fonds et de blanchiment d'argent au profit du groupe militant Al-Shabaab. Les sanctions visent 16 entités et individus de la région de la Corne de l'Afrique, des Émirats arabes unis, de Chypre, et a indiqué le département d'État du Trésor du moins dans un communiqué. Al-Shabaab, que Washington considère comme un groupe terroriste, génère plus de 100 millions de dollars par an, notamment en estorquant des entreprises locales.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annoncé ce lundi que les États-Unis fourniraient 133 millions de dollars supplémentaires pour soutenir la résolution de la crise en Haïti, en proie à la violence des gangs et à une crise de gouvernance. Les détails avec Eric Manirakiza.
S'exprimant lors d'une réunion d'urgence en Jamaïque sur la question d'Haïti, le secrétaire d'État a affirmé que la situation est hors de contrôle, soulignant l'urgence d'un déploiement d'une force multinationale pour répondre à la crise. Les États-Unis ont promis 100 millions de dollars supplémentaires pour son déploiement, ainsi que 33 millions de dollars pour l'aide humanitaire. Le secrétaire d'État américain a déclaré que les États-Unis et ses partenaires pouvaient aider à restaurer une sécurité fondamentale et répondre à l'immense souffrance des Haïtiens. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, présent virtuellement lors des discussions, a également offert plus de 91 millions de dollars pour Haïti. D'autres pays ont également annoncé leur intention de contribuer à une aide financière en logistique, comme le Bénin, la France, l'Allemagne, la Jamaïque et l'Espagne, selon des responsables américains. Les États-Unis et le Canada ont exclu d'envoyer des soldats en Haïti. Le Kenya s'est dit prêt à déployer des policiers, mais freiné pour le moment par une décision de justice kenyane.
Merci Eric. J'ajoute que le Premier ministre haïtien Ariel Henry a accepté lundi de quitter ses fonctions, a annoncé le président de la CARICOM, la communauté des Caraïbes, lors d'une conférence de presse organisée à l'issue de la réunion en Jamaïque. Mohamed Irfan Ali, président du Guyana, s'est dit heureux d'annoncer un accord de gouvernance transitoire, ouvrant donc la voie à une transition pacifique du pouvoir, à la continuité de la gouvernance, à un plan d'action à court terme en matière de sécurité et à des élections libres et équitables. M. Henry a également confirmé sa démission lors d'un échange téléphonique lundi avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Ici aux États-Unis, Joe Biden reçoit ce mardi à la Maison-Blanche le président et le premier ministre polonais. Le président américain entend réaffirmer avec son homologue Andrew Duda et le premier ministre Donald Tusk un indéfectible engagement pour la défense de l'Ukraine face à la brutale agression de la Russie, a fait savoir à la Maison-Blanche, la rencontre coïncidant avec le 25e anniversaire de l'entrée de la Pologne dans l'OTAN sera aussi l'occasion avant de préparer le prochain sommet de l'Alliance transatlantique ici à Washington. Donald Trump a demandé hier à la justice de New York de repousser son procès pénal prévu à partir du 25 mars dans une affaire de paiement à une actrice de film adulte afin d'attendre une décision de la Cour suprême sur son immunité présidentielle. Dans les affaires pénales, les avocats de Donald Trump avancent l'argument de son immunité présidentielle qui sera débattue par la Cour suprême des États-Unis à partir du 25 avril. Et puis l'espérance de vie moyenne, qui ne cessait de progresser depuis des décennies à travers le monde, a subitement décliné en 2020 et 2021 pendant le plus gros de la pandémie de COVID. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Salani.
En Angola, le solde budgétaire primaire devrait s'améliorer et rester positif compte tenu de la poursuite attendue de la réforme des subventions au carburant, un service de la dette réduit à partir de 2024 et la reprise de la croissance, estime le FMI. Les risques qui pèsent sur les perspectives à court terme comprennent une baisse plus importante que prévue des prix mondiaux du pétrole et ou de la production pétrolière nationale, ainsi qu'un retard dans la mise en œuvre de la réforme des subventions au carburant. En Égypte, l'inflation annuelle des prix à la consommation urbaine a bondi à 35,7% en février contre 29,8% en janvier, principalement sous l'effet de la hausse des prix des produits alimentaires et des boissons. C'est ce qu'a affirmé l'Agence nationale égyptienne de statistiques, CAPMAS. Pour terminer, en Zambie, la fonderie de cuivre Chambishi, exploitée par une société chinoise, a réduit d'un cinquième sa production en raison des coupures de courant, ont déclaré deux sources proches du dossier. L'usine produit environ 250 000 tonnes de cuivre par an. C'est l'une des plus grandes installations de transformation de la Zambie, deuxième producteur de cuivre d'Afrique.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jean-Roger, bonjour à tous.
Brahma Traoré est nommé sélectionneur du Burkina Faso.
Oui, le technicien burkinabé a été nommé à la tête des étalons pour un contrat à long terme. C'est l'annonce faite par la Fédération burkinabé de football. Après plusieurs expériences, nous avons pensé qu'il était temps maintenant de faire confiance à un entraîneur national, a déclaré le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, promettant le début d'une grande réforme pour le football burkinabé. Le patron de la FBF ajoute que Brahma Traoré aura pour principale mission de construire une équipe jeune et qualifier le Burkina Faso pour la CAN au Maroc en 2025 et le Mondial 2026. Philippe Bationo, journaliste sportif au journal Le Quotidien, et à l'étalon.net.
Il a été annoncé donc qu'on veut créer un projet à long terme avec autour de Brahma Traoré, à qui donc plusieurs objectifs ont été assignés, notamment se qualifier pour la Coupe du Monde, se qualifier également pour la CAN, mais aussi et surtout construire une équipe compétitive, rajeunir l'équipe et surtout instaurer la discipline dans cette équipe des étalons quand on sait que le vestiaire est plus ou moins divisé avec des clans, avec des joueurs qui arrivent en retard lors des regroupements et tout ça.
Philippe Bationo, journaliste sportif au journal Le Quotidien et à l'étalon.net.
Au Cameroun, ce sont deux joueurs exclus pour avoir triché sur leurs âges.
La Fédération camerounaise de football a déclaré inéligibles ses 62 joueurs pour les playoffs du championnat national. La FECAFOOT évoque une double identité ayant faussé leur âge réel. Parmi les joueurs suspendus, Wilfried Nathan Douala, milieu de terrain de Victoria United. Il a fait partie des Lions Indomptables qui étaient à la récente CAN 2023 en Côte d'Ivoire, où il a été présenté comme le plus jeune joueur de la compétition à 17 ans. Cette décision de la FECAFOOT touche, entre autres, 13 joueurs de Nyong Sport Academy.
Basketball, suite ce mardi des matchs de la 4e saison de la Basketball Africa League.
Oui, ces matchs de cette conférence à Kalahari se jouent à la Sambet Arena de Pretoria. En principe, deux rencontres au programme, Dynamo Basketball Club du Burundi, Pedro de Luanda et Cape Town Tigers contre Fuso de Rabat, qui compte deux victoires en deux matchs. La rencontre entre le Dynamo Basketball Club du Burundi et FUS de Rabat n'a pas eu lieu dimanche, les autorités burundaises refusant que leur équipe porte des maillots estampillés Visit Rwanda, sponsor officiel de la compétition. Le président de la Basketball Africa League, Amadou Gallo Fall, parle d'un refus de se conformer aux règles de la Ligue concernant les maillots et les uniformes. Les rencontres de cette conférence Kalahari vont s'achever le 17 mars. Les deux premiers se qualifieront pour les playoffs et le troisième aura encore une chance de faire partie des deux meilleurs troisièmes qui vont jouer ces playoffs à Kigali au Rwanda.
Page de sport VOA Afrique, signé Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Lyon de retour avec vous pour les dossiers du jour. On commence par le Sénégal, où la campagne électorale a été lancée depuis ce week-end. Une campagne hors norme, puisqu'après avoir été ajournée, la date de l'élection a été fixée la semaine dernière à seulement 17 jours de l'échéance. C'est donc une campagne raccourcie qui démarre et qui se tiendra pendant le mois du Ramadan. Retour sur le premier week-end de campagne avec ce reportage, signé Alison Fernandez et Mustapha Diène.
Des milliers de personnes réunies dans la banlieue de Dakar, c'est de loin le plus grand rassemblement de cette campagne au Sénégal. Pourtant, c'est un meeting qui se tient sans le candidat à l'élection. Bassirou Diomaye Faye est toujours emprisonné depuis presque un an. Après le vote de la loi d'amnistie la semaine dernière, sa libération pourrait avoir lieu prochainement. Dimanche matin, c'est devant le domicile du leader du parti d'Issou Pastef, Ousmane Sonko, que les leaders et militants se sont réunis pour lancer leur caravane. El Malik Ndiaye est le secrétaire à la communication de l'ex-Pastef.
Là, c'est l'apothéose. On démarre à partir de là où tout a démarré. C'est le président Ousmane Sonko qui est arbitrairement emprisonné aujourd'hui et notre candidat, mais le peuple est en train de démontrer que, avec ou sans notre leader et notre candidat, nous allons gagner dès le premier tour et c'est ça l'essentiel.
Dans les QG de campagne, de nombreux défis logistiques sont à relever. Car la nouvelle date d'élection, le 24 mars, a pris de court de nombreux candidats et la campagne électorale, lancée de manière expresse, a été raccourcie. Idriss Ambeng, directeur de campagne adjoint du PUR.
On attendait 21 jours, on donne 15 jours. Et dans la campagne initiale qu'on avait prévue, c'était prévu de faire le tour du Sénégal et de passer assez de temps avec les militants et les sympathisants et les populations. Malheureusement, en 15 jours, ça ne va pas être possible. On essaiera de faire le maximum de territoire.
Autre contrainte dès cette semaine, celle du Ramadan dans ce pays à majorité musulmane. L'ancien maire de Dakar, Raïf Assal, compte bien adapter sa campagne.
La journée, on est obligé de respecter les préceptes de la religion. On va adapter notre campagne. Peut-être qu'elle sera nocturne, ou en tout cas, ce sera par ce biais-là. Mais c'est vraiment, on nous impose une campagne exceptionnelle et spéciale, mais on s'adaptera.
La plupart des 19 candidats à cette élection partiront battre campagne en région dans le courant de la semaine. Près de 7 millions d'électeurs sénégalais sont appelés aux urnes le 24 mars prochain, donc dans moins de deux semaines. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Mali, la semaine dernière, le premier responsable d'énergie du Mali a annoncé des mesures pour améliorer la fourniture de l'électricité en ce mois de Ramadan qui a débuté ce lundi. Le calendrier prévoit une moyenne de 12 heures d'électricité par jour, mais suscite déjà beaucoup de controverses. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Le programme de fourniture EDM dans mon quartier est faux. Mieux valait ne même pas le programmer pour ensuite se ridiculiser. Peste Ibrahim Khalil Touré dans un post sur les réseaux sociaux. Contacté pour plus de détails, il revient sur les circonstances qui l'ont amené à pousser ce coup de gueule.
Ça s'annonce pas bien pour le moment parce que hier le 10 mars, Ils avaient produit des programmations qui malheureusement n'ont pas été suivies et respectées. En tout cas, dans mon quartier à moi, je relève de la zone 4 qui devait avoir l'électricité un temps, mais malheureusement, cela n'a pas été vraiment respecté.
Les internautes n'ont pas manqué de soulever le caractère incompréhensible du calendrier qui semble trop chargé à leur coup. Bourema Soulou, journaliste, en a fait le constat.
C'est un vrai casse-tête pour bon nombre de Maliens parce que ça a commencé hier et puis l'EDEM n'a pas pu respecter le chronogramme qu'il a proposé à certains quartiers.
Pour Assetou Founé Samaké, c'est un début et les couacs peuvent se comprendre. Le fait déjà pour la direction de l'EDM d'annoncer une fourniture de 12 heures par jour est selon elle à encourager.
Je pense qu'on doit leur accorder le bénéfice du doute jusqu'à présent parce que ce n'est qu'hier qu'ils ont publié le nouveau programme. Donc le mois de Ramadan aussi c'est un mois assez spécial avec la chaleur actuellement. Si on peut passer de 3 à 4 heures de temps d'électricité par jour à 12 heures de temps, je pense que ce serait l'idéal parce qu'il faut songer à soulager la population qui ne demande que l'électricité. Donc s'ils essaient de fournir assez d'efforts, je pense que ce serait bien.
Selon Abdoulaye Djibril Diallo, directeur général de EDM, il faut 500 millions de litres de combustible, soit 309 milliards de francs CFA pour que les Maliens aient l'électricité 24 heures sur 24 en cette année 2024. En cette période de chaleur, les Maliens devront encore prendre leur mal en patience. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Sous attaque terroriste depuis près d'une décennie, le Burkina Faso mène une guerre sous diverses formes. Pour recouvrer l'entièreté de son territoire, l'une des régions les plus touchées par la crise est celle du Sahel burkinabé. Dans cette zone du pays, comme dans bien d'autres, les chefs traditionnels et coutumiers sont en première ligne pour promouvoir le vivre ensemble et la cohésion dans l'espoir d'un retour à la paix. Gilles Dasda, l'un de nos correspondants à Ouagadougou, est allé à la rencontre de quelques leaders traditionnels qui œuvrent dans le sens de la réconciliation.
Devant des ressortissants de la région du Sahel, l'une des plus touchées par le terrorisme au Burkina, Boubacar Diko explique les comportements à avoir pour tendre vers la paix et la cohésion sociale. L'homme est responsable de Faso Kibaru, média en langue nationale qui promeut la cohésion. Il est aussi à la tête d'une association qui a le même but, avec pour zone cible le Sahel burkinabé. Dans ses activités pour la recherche de la paix, les chefs traditionnels figurent en bonne place.
Donc nous ne pouvons pas en tout cas réussir aujourd'hui. En tout cas, l'aspect, la cohésion sociale ou le retour de la paix, en tout cas, sans impliquer les chefs coutumiers et religieux que nous avons. Quand vous prenez d'autres communautés qui sont restées, peut-être à Arbinda, qui sont restées à Markoy, qui sont restées à Gorom, à Seba, mais les communautés qui vivent ensemble, qui ne se parlent pas, et vous partez avec leurs personnes de ressources, naturellement, ça va les montrer une autre image et ça va les amener aussi à réfléchir pour se dire que, bon, on doit aussi, en tout cas, s'asseoir, discuter ensemble et on doit s'entendre pour aussi aller ensemble pour que la paix revienne.
Pour espérer le retour de la cohésion sociale et de la paix tant attendue par les Burkinabés, des chefs traditionnels comme Issa Bangalou, émir de Loudalan, ont pris leur bâton de pèlerin. Loudalan est en plein cœur du cyclone de l'insécurité, mais son chef, désormais basé à Ouaga, se bat pour un avenir radieux.
Qui nous évite même d'aller au chaos. On a des jeunes dynamiques qui sont dans la province, qui veillent dans les différents secteurs à chaque fois. S'il y a quelque chose, nous on est informés. Il y a des minutes qui suivent et aussitôt on mobilise les gens pour agir.
Agir pour éviter que la situation n'empire, c'est aussi ce qui est fait dans le Liptako. Là aussi, c'est l'émir qui mène le combat pour les mêmes buts, cohésion sociale et retour de la paix. L'émir Ousmane Amirou Diko a sous sa coupe la ville de Dori et 200 villages au Bamo.
Il veut des dessins viennent, nous renseignons tous les jours ce qui se passe et essayer de dire aux gens, faites attention, ne suivez pas. Parce que nous avons malheureusement oublié des choses. Chef coutumier, fragile.
ça fait une communauté fragile. Une communauté fragile, ça amène des jeunes fragiles. Et un jeune fragile est sans repère. Lorsqu'il est sans repère, il se tourne vers quoi? Vers tout ce qui nous hante en ce moment. Donc c'est une éducation permanente, une sensibilisation permanente des communautés.
Limi, dont la zone d'influence est sérieusement touchée par l'insécurité, se bat au jour le jour. Son objectif, éduquer pour ramener la tranquillité dans la région du Sahel et partant le Burkina entier. Ousmane Amirou Diko est à la tête du conseil des chefferies coutumières du Sahel.
Nous jouons un rôle fondamental. C'est le ciment de notre nation, la chefferie coutumière.
Une chefferie coutumière qui, toute communauté confondue, s'engage de plus en plus pour un Burkina de paix. Pour l'émir du Litako, un message demeure à l'endroit des groupes armés terroristes.
Donc, j'appelle les jeunes là à retrouver la maison et à retourner à la maison pour qu'on puisse tous se réunir et bâtir ce pays que nous avons en commun. C'est le seul.
Cri du cœur d'un chef traditionnel à l'image de centaines d'autres Burkinas qui donnent de leur personne et de leur influence pour remettre le pays sur le droit chemin. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Tchad se dirige vers une élection présidentielle censée mettre fin à une transition de 3 ans. Fait marquant, le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby, et son premier ministre Succès Masra sont candidats à ce scrutin qu'une partie de l'opposition considère déjà comme gagné d'avance par le chef de la junte. Comment interpréter les candidatures des deux signataires de l'accord de réconciliation? Comment assurer la transparence du processus électoral au Tchad? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com, en rediffusion samedi et dimanche.
Les électeurs américains se préparent à une nouvelle série de primaires ce mardi. Le président Joe Biden et son rival républicain Donald Trump se sont rendus dans l'État de Géorgie pour organiser des événements de campagne parallèles. Véronica Balderas-Iglesias de la VOA récapitule les arguments avancés par chaque camp. Le récit est de Nani Talani.
Les libertés américaines seront en jeu en novembre, a souligné le président Joe Biden lors d'un événement de campagne à Atlanta, en Géorgie. Il a rappelé aux électeurs le bilan de son rival républicain, l'ancien président Donald Trump, en matière de droit à l'avortement.
Il est arrivé au pouvoir déterminé à voir Roe v. Wade renversé. En fait, il s'en prend. Eh bien, son souhait a été exaucé et les États adoptent des interdictions qui criminalisent les médecins forçant les victimes de viol et d'inceste à quitter leur État pour obtenir de l'aide.
Mais la Géorgie, selon M. Biden, peut aider à protéger les droits reproductifs des femmes.
Envoyez-moi un Congrès qui soutient le droit de choisir et je vous promets que je rétablirai Roe v. Wade en tant que loi du pays.
M. Trump a fait campagne samedi dans le nord-ouest de la Géorgie où il a vivement critiqué le récent discours de M. Biden sur l'état de l'Union.
Que vous soyez un républicain, un indépendant ou un démocrate désabusé, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder cet horrible discours sur l'état de l'Union. Joe Biden, l'escroc, a parlé de l'Ukraine avant de parler de l'Amérique. Joe Biden ne devrait pas crier sa colère contre l'Amérique. C'est l'Amérique qui devrait crier sa colère contre Joe Biden.
L'ancien président a également décrié les politiques d'immigration de Biden, citant le meurtre de l'étudiante Laken Riley le 22 février. Elle serait morte sous les coups d'un immigrant vénézuélien entré illégalement aux États-Unis.
He was an illegal migrant and he shouldn't have been in our country and he never would have been.
C'était un migrant illégal et il n'aurait pas dû être dans notre pays et ne l'aurait jamais été sous la politique de Trump. Biden applique une politique de laisser tout migrant illégal qui entre aux États-Unis d'avoir une immunité garantie contre la déportation.
Monsieur Biden, qui a utilisé le mot illégal lors de son discours sur l'état de meurtrier présumé de Madame Riley, s'est par la suite excusé et a défendu samedi son propre bilan en matière d'immigration.
J'ai présenté un plan complet et global pour réparer notre système d'immigration, sécuriser notre frontière, fournir une voie d'accès à la citoyenneté pour les jeunes migrants, déjà ici, ainsi que leurs familles, les travailleurs agricoles, les travailleurs essentiels qui nous ont aidés à traverser la pandémie et qui font partie des tissus de notre communauté.
Ce que leurs remarques ont en commun, c'est l'urgence pour les électeurs de se rendre aux urnes et les aider à remporter l'investiture de leurs partis respectifs.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro. À la mise en onde, Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.